franceinter.fr.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la tragédie des 24 heures du Mans. Le 11 juin 1955, sur le circuit de la Sarthe, lors de la 23e édition de la mythique épreuve d'endurance, un pilote perd brusquement le contrôle de sa voiture. Lancé à plus de 240 km/h, il sort de la piste et se fracasse au pied d'une tribune bondée. Filmé par les caméras de télé et par quelques cinéastes amateurs, la scène est glaçante. Les images du choc sont terribles. Dans un gigantesque panache de flammes et de fumée, la voiture est réduite à l'état de cendre. Son pilote, lui, trouve la mort. Pourtant, personne parmi les officiels de la course, les participants et une grande partie du public ne réalise à ce moment la véritable ampleur de la catastrophe. Alors que des gendarmes et des journalistes s'improvisent sauveteurs sur le lieu de l'accident, en bas, sur la piste, la course, elle, continue. Ce n'est que le lendemain matin qu'on découvre à la une de la presse le vrai visage de cet accident, un carnage. On dénombre 82 morts et plus d'une centaine de blessés. Après le récit, nous recevrons Jean-Paul Guittet. Psychiatre, il travaille avec les pilotes et les membres des équipes du circuit du Mans. En 1955, il était dans la tribune où a eu lieu l'accident. Il nous livrera son témoignage. Jean-Paul Guittet nous attend dans les studios de France Bleu Maine, au Mans, que nous remercions pour leur accueil. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Léo Prangère.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Il est un peu plus de 16h, ce 11 juin 1955. Main sur le volant, casque sur la tête et pied droit enfoncé sur la pédale d'accélérateur, Pierre Levègue file à plus de 150 km/h à bord de sa Mercedes. Comme 59 autres pilotes, le Français vient de prendre le départ de la plus longue et de la plus prestigieuse des courses d'endurance, les 24 heures du Mans. Une épreuve automobile redoutable pour les hommes et pour leurs machines. Ici, en l'espace d'un week-end, deux jours comme de nuit, dans des conditions météo variables, les pilotes vont devoir affronter un tracé sinueux de plus de 13 km à travers les routes départementales de la Sarthe. Les yeux rivés sur la piste, entièrement concentrés sur sa trajectoire, Pierre Levègue espère cette année décrocher une place sur le podium. À 49 ans, ce col blanc parisien, pilote non professionnel, jouit au Mans d'une solide réputation. 3 ans plus tôt, en effet, il avait réalisé un exploit en faisant la course en tête, seul et sans relais, pendant près de 23 heures, avant de devoir abandonner sur une casse mécanique. L'épisode, aussi injuste soit-il, l'avait consacré tout de même à la une de la presse et avait fait de lui un héros national. Alors, quand l'équipe allemande Mercedes a dû remplacer au pied levé l'un de ses jeunes pilotes blessés, eh bien, elle a pensé à lui pour prendre le volant de son dernier monstre, la 300 SLR, la voiture la plus intrigante et la plus fascinante du plateau. Un prototype dérivé de la Formule 1 qu'on surnomme la Flèche d'Argent, en raison de son design et de la couleur de sa carrosserie, mais surtout de sa puissance démesurée, un peu plus de 300 chevaux, et enfin de son intrigant aileron arrière qui se déploie comme un aérofrein pour ralentir le véhicule. Sur le papier, les trois voitures de l'équipe allemande font figure de grandes favorites. Et comme ça, cela ne suffisait pas, leurs équipages, eux aussi, sont pléthoriques. La firme de Stuttgart a vu les choses en grand. Elle aligne dans chacun de ses bolides deux pilotes qui vont se relayer durant la course. Aux côtés de Pierre Levègue, on trouve ainsi le bouillonnant américain John Fitch, un homme capable de renverser, dit-on, n'importe quelle situation. Le second équipage, lui, est un duo de pilotes allemands très expérimentés. Enfin, la troisième flèche d'argent est entre les mains de deux coureurs exceptionnels, Stirling Moss et surtout Juan Manuel Fangio, oui, le grand Fangio, qui est un peu au sport automobile ce que Pelé a été pour le foot, la référence. Une citation qui fera dire plus tard au journaliste de la RTF Jean-Jacques Rebuffa, présent dans les tribunes de presse au Mans, que cette année-là, les Mercedes n'étaient pas venus pour participer, mais bien pour gagner.
Dès leur arrivée sur le circuit, les flèches d'argent ont électrisé les spectateurs. Les gens voulaient les voir, les toucher, les photographier. Il faut dire que depuis plusieurs semaines, la presse faisait état de nombreuses rumeurs à leur sujet. On disait d'elles qu'elles étaient révolutionnaires dans leur conception. On disait aussi qu'elle serait capable de dépasser la barre des 300 km/h, chose qui à l'époque était incroyable. Enfin, le charme de ces Allemandes en tenue de soirée gris-argent était aussi intimement lié à la présence dans l'équipe d'un pilote français, Pierre Levègue. Rappelons qu'en 1955, la guerre était encore dans toutes les mémoires. Ainsi, mettre un pilote parisien au volant d'un bolide allemand symbolisait donc un coup diplomatique et médiatique hors norme. Pourtant, malgré leurs efforts, les ingénieurs de Stuttgart ont, semble-t-il, négligé un dernier paramètre. Celui de l'imprévisibilité d'une course automobile comme les 24 heures du Mans. Sur la piste, il y a toujours de l'imprévu. Et le départ de cette édition 1955 va d'ailleurs le leur rappeler de façon amère.
Sur la piste, après la frénésie du traditionnel départ en courant, ce sont les pilotes italiens de l'équipe Ferrari qui prennent la tête des opérations. Au premier virage, celui de la courbe du S de Dunlop, les bolides rouges de la marque au cheval Cabaret démontrent d'emblée leur supériorité. Tenant du titre, ici, dans la Sarthe, elles entendent bien garder. Derrière, les autres pilotes se livrent une lutte de tous les instants. On tente de doubler, on essaie de bloquer. Si bien que dès les premiers virages, cette course d'endurance prend des allures de Grand Prix.
Voici dans les S. Déjà 2 kilomètres de parcouru. Voici le tertre rouge. Castellotti mène devant Maglioli. Baumann cède le passage à Hawthorne. Salvadori. Kaas. Collins, puis en deuxième et troisième position, Levègue et Kling.
Dans un panache de poussière et dans les effluves d'huile de moteur, les voitures passent le second grand virage, le tertre rouge. Pierre Levègue est pour l'instant en 13e position, en milieu de peloton, alors que devant, la bataille fait rage. À l'entrée des Hunaudière, le site le plus connu du circuit des 24 heures, les Ferrari sont toujours en tête. Elles accélèrent. Les pilotes poussent leur moteur à plein régime. La vitesse grimpe et atteint les 280 km/h. Dans le peloton, chaque concurrent tente de se porter à l'aspiration, une technique qui consiste à se rapprocher au maximum du véhicule qui précède afin de réduire les perturbations aérodynamiques et ainsi de gagner en vitesse. À ce petit jeu, ce sont les Jaguars qui démontrent tout leur potentiel. L'écurie britannique et ses 3 voitures couleur vert bouteille se portent alors à l'attaque. Après plusieurs années de recherche, les ingénieurs les ont équipés d'un étonnant aileron vertical qui traverse la partie arrière droite de la carrosserie. Un artifice technique qui intrigue le public et qui est censé augmenter la stabilité à haute vitesse. Épreuve que les Anglais ont bien fait leur travail, au volant de la Jaguar numéro 6, Mike Hawthorn se hisse à la seconde place. Il talonne désormais le leader, l'Italien Castellotti, sur Ferrari. Hawthorn, l'enfant terrible du sport automobile anglais, signe une manœuvre périlleuse à très haute vitesse. Une figure audacieuse, à l'image d'ailleurs de toute sa carrière qui s'est déroulée sur le mode prise de risque, comme le souligne Jean-Jacques Rebuffat.
À tout juste 26 ans, Mike Hawthorn affichait une détermination bien à lui pour cette course du Mans. Il avait pris le départ, bien décidé à faire taire tous ceux qui voyaient déjà Mercedes en haut du podium. Nationaliste dans l'âme, le Britannique avait d'ailleurs expliqué à la presse que cette course était pour lui une nouvelle bataille entre l'Allemagne et l'Angleterre. Un combat qu'il devait gagner à tout prix. D'ailleurs, chez Jaguar, tout le monde le partageait. Il n'était pas là pour une course. Il était venu pour humilier techniquement les Allemands. On a souvent dit que Hawthorn était un très bon pilote. C'est vrai, dans le milieu de la course automobile, sa réputation n'était plus à faire. Mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est que derrière son palmarès et son ascension fulgurante, l'anglais cachait un autre aspect beaucoup plus sombre. Au volant, il y avait chez lui un côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde, à la fois impulsif et imprévisible. Un trait de caractère que personne chez Jaguar n'arrivait à gérer.
Une minute et 35 secondes plus tard, les premiers bolides arrivent au bout de la ligne droite du Hunaudière, avec en vue le virage de Mulsanne et son épingle à cheveux, l'un des endroits les plus lents du circuit. Ici, les freins sont mis à rude épreuve. Et là encore, les Jaguars sont à leur avantage. Grâce à des freins à disque révolutionnaires, Hawthorn et ses coéquipiers ralentissent de manière plus efficace et gagnent donc de précieuses secondes. Au passage des voitures, le public, nombreux, applaudit. Ferrari, Jaguar, Aston Martin, bien. Mais où sont les Mercedes? Et Fangio, l'Argentin, où est-il? Quelques poignées de secondes plus tard, la première des flèches d'argent de l'écurie allemande arrive. Aérofrein déplié, elle passe à quelques mètres de la foule. Il s'agit de la numéro 20, celle du français Pierre Levègue. Ce dernier se bat comme un diable. Il pointe désormais au 8e rang, alors que Fangio joue les utilités à la 14e place, après un départ catastrophique. Les Mercedes SLR, ces machines qu'on prétendait révolutionnaires, rencontreraient-elles des problèmes techniques? Dans les stands, les rumeurs les plus folles circulent. Les pilotes eux-mêmes sont surpris, Castellotti notamment. Lorsque sa Ferrari franchit en dérapant le virage d'Indianapolis, puis celui d'Arnage, il n'aperçoit toujours aucune Mercedes dans son rétro. Seule la Jaguar du Britannique Hawthorne est là, à quelques mètres derrière. Mis sous pression, l'Italien doit pousser sa Ferrari à son maximum. Après un peu plus de 4 minutes à jouer au chat et à la souris, Castellotti et Hawthorne abordent la longue courbe qui mène à la ligne droite des stands. Ils foncent à plus de 240 km/h. Devant eux, la largeur de la piste rétrécit. À mesure qu'ils s'approchent de l'espace des ravitaillements, celle-ci passe de 15 mètres à 12, pour enfin tomber à 9 mètres. Un goulot d'étranglement. Mais il en faut plus pour impressionner les pilotes qui abordent ce passage à toute vitesse. À un mètre de là, oui, à un mètre seulement, les spectateurs massés derrière un petit mur et en béton sont ravis.
Au premier passage au stand, l'avance de Castellotti est déjà grande. Puis vient Hawthorne sur Jaguar. Maglioli sur Ferrari. Walter sur Jaguar est quatrième et Bowman cinquième aussi sur Jaguar. Les Mercedes sont septième, douzième et quatorzième. Elles lèvent leur volet de freinage.
Au micro, le speaker annonce au public les classements. La première flèche d'argent, celle de Levègue, n'est qu'au septième rang. Dans les stands, tous les regards se tournent vers le patron de l'écurie Mercedes, Alfred Neubauer. Malgré l'apparente contre-performance de ses voitures sur la piste, ce monsieur ne semble pas inquiet, pas du tout. Alors, s'agit-il là d'un coup stratégique? Que nous préparent les Allemands? Le mystère reste entier à l'issue de ce premier tour. En cette fin d'après-midi, les premiers nuages font leur apparition au-dessus du circuit du Mans. Il fait chaud, l'air est lourd. Dans les différentes tribunes, la fête bat son plein. Près de 300 000 personnes suivent avec passion cette première demi-heure de course. Certaines d'entre elles ont sorti leurs jumelles pour tenter de discerner les numéros des voitures, au loin. Parmi tous ces spectateurs, il y a Jean-Paul Guittet. C'est un jeune garçon de 10 ans. Il est assis là, sur un banc monté lui-même, sur une table au pied de la grande tribune, face au stand. Avec son petit frère, ils sont les témoins privilégiés de ce spectacle de premier choix. Soudain, quelques mètres plus bas, les deux Mercedes passent à leur tour. Parmi elles, il y a voiture 19, celle de Fangio. Après un départ décevant, l'Argentin effectue un retour d'anthologie. Virage après virage, tour après tour, il remonte un à un ses adversaires et il bat record sur record. Il est de loin l'homme le plus rapide sur la piste. Il faut dire qu'il a un rang à tenir, au propre comme au figuré. Si bien qu'au milieu du 12e tour, il rattrape enfin le groupe de tête, celui de la Ferrari de Castellotti et de la Jaguar de Hawthorne. Grâce à la toute-puissance de sa Mercedes en ligne droite et à son très efficace aérofrein, Fangio joue les coudes pour prendre la tête. Au micro, le speaker de la course commente, minute après minute, la lutte entre ces trois hommes. Puis, très vite, on apprend que la Ferrari de Castellotti décroche. Hawthorne et Fangio se retrouvent donc seuls pour la bataille de la première place. Un duel sans merci à plus de 240 km/h commence. Les pilotes roulent à une allure folle, à un rythme qui n'a plus rien à voir avec une course d'endurance de 24 heures, non. Il semble plutôt jouer le sprint à chaque tour. Au même moment, dans les stands, le visage d'Alfred Neubauer se crispe. Alors qu'une de ses voitures tente de prendre la tête, le patron de l'écurie Mercedes est inquiet. En effet, si Fangio continue d'attaquer de la sorte, il va consommer beaucoup plus d'essence que prévu. Or, l'équipe des flèches d'argent ne dispose que d'une quantité limitée de carburant jusqu'à la fin de la course. L'horloge, la grande pendule, indique désormais 18h20. Sur la piste, ça fait plus de 2 heures que les pilotes roulent au rythme d'une moyenne ahurissante de plus de 170 km/h. En tête, on retrouve toujours les irrésistibles Fangio et Hawthorne, plus déterminés que jamais à passer les premiers la ligne d'arrivée, les deux hommes d'ailleurs, vont si vite qu'ils ont déjà pris un tour d'avance à plusieurs de leurs adversaires. au point même de rattraper le Français Pierre Levesque qui s'accroche à une très bonne sixième place.
Kling et Levesque roulent de concert. Leurs volets de freinage montent et descendent presque en même temps. Derrière eux, Horton et Fangio s'apprêtent à les dépasser. À harnage, Horton talonne Levesque, tandis qu'un autre concurrent gêne un instant Fangio.
Désormais, dans un groupe de trois avec Pierre Levesque en embuscade, mais avec un tour de retard, les pilotes entrent dans leur 35e tour. L'heure des ravitaillements approche. Dans les stands, les équipes de mécaniciens se préparent à recevoir leur voiture. À bord de la Jaguar, numéro 6, Mike Horton garde la Mercedes de Fangio dans son rétroviseur. Et alors que l'Argentin tente de le dépasser par la gauche, Horton donne un brusque coup de volant pour l'en empêcher. Les deux hommes se livrent de passes d'armes qui virent maintenant à l'affrontement. Témoin de la scène, les commissaires de course agitent le drapeau bleu devant la Jaguar. Ce que signifie qu'Horton doit arrêter ses manœuvres dangereuses et laisser passer Fangio car celui-ci est plus rapide. À cran, le pilote britannique brandit alors son poing hors de la voiture. Et là, à cet instant, plus rien d'autre ne compte pour lui que d'être le premier devant les caméras de télé à s'arrêter pour ravitailler. Et il fera tout pour y arriver. Quelques minutes plus tard, les trois pilotes abordent la longue courbe qui mène au stand. Ils se tiennent dans un mouchoir de poche. Horton est devant, suivi par Levesque et Fangio. La piste, elle, se rétrécit. 500 mètres plus loin, on aperçoit l'entrée des ravitaillements. Enfin, il était temps, c'est lui Horton. Mais c'est alors que surgit une forme noire, en plein milieu de la route. L'objet semble se rapprocher du groupe de tête à mesure que les secondes passent. Bon sang, mais de quoi s'agit-il ? Tempère Fangio, qui croit sur le moment halluciner et voir le diable. C'est tout bêtement une autre voiture de course. Il s'agit d'une Austin Haley. Elle roule à plus faible vitesse. Obnubilé par son duel avec Fangio, Horton n'hésite pas un seul instant. Il prend tous les risques, il fait un écart, double l'Austin, se rabat violemment et freine fort pour rentrer dans son stand. Le pilote de l'Austin, Lance McLean, déstabilisé par la manœuvre de la Jaguar, appuie à fond sur les freins, il bloque ses roues et se décale d'un mètre sur la gauche. Ouf, le public retient son souffle. McLean semble avoir évité de justesse la collision. Mais soudain, on entend un bruit sourd provenant de la piste. L'Austin vient d'être percuté à l'arrière par un autre véhicule, celui de la Mercedes du Français, Pierre Levesque. Lancé à plus de 200 km/h, Levesque ne peut éviter l'obstacle. Catapulté en avant, sa flèche d'argent décolle et vient se briser dans une grande explosion contre le mur de béton, à côté de la tribune du public. L'Austin, elle aussi, est projetée contre le mur et fait une rambardée sur la gauche avant de venir faucher un gendarme devant les stands. Témoin impuissant de cette scène de cauchemar, Fangio, sur l'autre Mercedes, a tout juste le temps de braquer son volant sur la droite pour échapper à la catastrophe. Dans les stands, c'est la confusion. L'anglais Horton, à bord de sa Jaguar, égaré quelques mètres plus loin. C'est lui qui est à l'origine de l'accident. Mais pour l'instant, il ne réalise pas ce qui s'est passé. Personne parmi les pilotes ou les officiels ne prend vraiment conscience d'ailleurs de la tragédie qui se déroule à seulement quelques dizaines de mètres de là. Deux gendarmes se précipitent sur la piste et attrapent une grande bâche publicitaire pour recouvrir un corps sans vie. Du côté de l'équipe Mercedes, la femme de Pierre Levesque est en pleurs. Elle a compris que c'est la voiture de son mari qui vient de se désintégrer dans un nuage de fumée et de flammes. Il est 18h28. Ici, dans la folle ambiance du Mans, la fête vire à l'horreur. Car derrière la Mercedes en feu se cache un désastre. La catastrophe la plus grave de toute l'histoire de la course automobile.
Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon. Se met la terreur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait. Les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur, on lisait « Maman, je t'aime ». Il avait une petite amie du nom de Marie-Lou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge. Car tout le monde savait bien qu'il aimait en retour sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes sacre de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Marie-Lou, la pauvre fille, elle implora, le supplia. Dis, ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdus, ses larmes pareillement, dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux. Au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, on trouvait sa culotte, de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la moto et plus rien de ce démon qui semait la terreur dans toute la région.
Le samedi 11 juin, 60 voitures prennent le départ des 24 heures du Mans 1955. 300 000 spectateurs sont là, pour qui les premiers tours de la ronde fantastique sont, sans qu'ils s'en doutent, le prologue du plus grand drame du sport automobile. Qui sait parmi la foule que cette Mercedes numéro 20, pilotée par Levègue, va ici même, à l'entrée de la zone des ravitaillements, exploser et semer la mort.
Sur la longue ligne droite des stands, le temps semble suspendu. Il est un peu plus de 19h. La plus grande confusion règne partout sur le circuit. Dans les tribunes, une vague de panique s'empare des spectateurs. Certaines personnes crient, d'autres partent en courant. En bas, sur la piste, les premiers pilotes s'arrêtent pour ravitailler. Personne ne se rend compte du drame qui se joue là, de l'autre côté de la piste, où l'on distingue au pied de la grande tribune la carcasse en feu de la Mercedes numéro 20, celle de Pierre Levègue. Le pilote a été retrouvé mort, à proximité. Derrière ce panache de fumée qui s'élève dans le ciel, sur plus de 80 mètres et sur une surface d'environ 1000 mètres carrés, des corps gisent un peu partout. À cet endroit, de nombreux spectateurs étaient juchés sur des échelles ou des échafaudages de fortune. C'était le cas de Jean-Paul Guittet et de son frère. Les deux enfants ont eu beaucoup de chance. Leurs voisins, en revanche, beaucoup moins. Lorsque la voiture a percuté le mur et une importante déflagration a projeté les spectateurs à terre, puis ce sont plusieurs éléments de la carrosserie propulsés par l'impact qui sont allés percuter un grand nombre de personnes. Le train avant et le moteur, par exemple, sont retrouvés 50 mètres plus loin, tachés de sang. La scène fait penser à un champ de bataille, une scène de guerre, comme en témoigne ce reportage de journalistes de la RTF présents sur place.
La mort est passée. Et les documents de la télévision française, tournés par nos camarades Rebuffa et Lariaga, ainsi que ceux d'un cinéaste amateur, permettent de revivre ces minutes dramatiques. Les gendarmes improvisent des linceuls. Les morts et les blessés jonchent le terrain. Les secours s'organisent spontanément. Un prêtre même apporte les derniers réconforts ou la bénédiction de la foi. Tout devient hallucinant. 20, 40, 50, 80 morts, sans blessés graves. La Mercedes du malheureux Levègue se désintègre littéralement, criblant encore tout l'alentour d'éclats de magnésium. Durant près de 3 heures, les ambulances, les sauveteurs, les brancardiers transporteront les victimes vers les hôpitaux par les routes heureusement restées libres parce que la course continue.
Malgré l'ampleur du drame, 82 morts et plus de 100 blessés, le directeur de la course, Charles Farou, décide de ne pas arrêter l'épreuve. Non, les voitures doivent continuer à rouler et le public doit rester, lance-t-il à ses commissaires de piste. Si à première vue, il est difficile de comprendre une telle décision, le journaliste Michel Bonté, auteur d'une sérieuse enquête sur l'accident, insiste justement sur la nécessité pour les dirigeants du circuit d'éviter à ce moment-là tout embouteillage qui pourrait engendrer le départ des spectateurs et qui bloquerait l'évacuation des blessés. Du côté des écuries, à l'exception de la Mercedes qui a perdu un pilote et une voiture lors de l'accident, les autres équipes ne se rendent compte de rien. Hawthorne, le pilote Jaguar, responsable en grande partie de la catastrophe, revient au stand un tour après l'accident. Il échange le volant avec son coéquipier. Mais alors qu'il ressort, il est violemment pris à partie par Lance McLean, le pilote de l'Austin accidenté. « Mais tu es fou, enfin, t'as failli nous tuer !» car le pilote de la Jaguar ne réalise pas ce qui s'est passé. Il ne comprend pas qu'il est à l'origine du drame. Il affirmera avoir fait un signe du bras au pilote de l'Austin pour lui signifier son intention de se rabattre pour rentrer au stand. Bon, admettons. À quelques centaines de mètres de là, sur le site de la fête foraine du circuit, à côté de la courbe Dunlop, nombreux sont les spectateurs qui ignorent tout de la catastrophe. Alors ils boivent, ils mangent, ils s'amusent, ils sont venus pour ça. Il est désormais un peu plus de 20 heures, la luminosité baisse un peu partout sur la piste. Les pilotes allument leurs phares. Nous voici entrés dans le deuxième quart de la course, l'un des plus dangereux, l'un des plus passionnants aussi. Au niveau du virage du Tertre Rouge, une Maserati se met en travers. Faute d'éclairage adapté, la Porsche qui la suit manque de peu de la percuter à plus de 110 km/h. Dans les stands, on fait les comptes jusqu'au prochain ravitaillement. Dans la tribune de presse, les journalistes font un point sur le classement.
La nuit s'annonce belle et à 22h, la Mercedes de Fangio et Moss est toujours en tête. Mais les Jaguars sont deuxième, troisième et quatrième. À minuit, des croix barrent déjà sur le tableau d'affichage 17 des numéros des 58 voitures qui ont pris le départ 8 heures plus tôt. La Lagonda est restée en panne d'essence. La Ferrari de Maglioli et Hill a rejoint celle de Castellotti derrière les stands. La Jaguar numéro 8 de Bowman s'est ensablée à harnage alors qu'elle était cinquième. À peu près en même temps, la dernière Ferrari d'usine abandonnait.
À 2h du matin, en pleine nuit, nouveau coup de théâtre. Alors qu'elle possède 1,5 tour d'avance sur la Jaguar de Hawthorne, la première Mercedes, celle de Moss et Fangio, rentre au stand. S'agit-il d'un ennui technique? Non. Les mécaniciens poussent la voiture dans le box et la préparent pour la mettre sur le camion de transport. Les autres équipes assistent à la scène, médusées. Puis, dans les minutes qui suivent, la seconde flèche d'argent, toujours en lice, rentre elle aussi au stand pour subir la même procédure. Mais enfin, que se passe-t-il? À quoi jouent les Allemands? Face aux journalistes, le directeur de l'équipe, Alfred Neubauer, explique solennellement que suite à l'accident dramatique de Pierre Lewaege, le comité de direction du constructeur allemand a décidé à l'unanimité de retirer toutes ses voitures de la course. Hors de question, selon le communiqué en provenance de Stuttgart, de gagner après les 80 morts qu'a provoqué la sortie de piste de Lewaege plus tôt, en fin d'après-midi. Débarrassés des Ferrari qui ont tout abandonné et des Mercedes qui se sont retirés, les Jaguars n'ont plus aucun obstacle sur leur route pour décrocher une victoire. Dimanche 12 juin 1955, le jour se lève sur le circuit du Mans, la pluie, elle, se met à tomber. Les spectateurs encore présents s'abritent comme ils peuvent. Un peu partout sur les bords de la piste traînent des débris de voitures et autres épaves de bolides. Comme à chaque fois, la nuit n'a fait aucun cadeau aux pilotes. Sur 60 véhicules au départ, ils ne sont plus que 25 à rouler. Sur sa Jaguar numéro 6, Mike Hawthorne continue de faire la course en tête. À moins d'un grave ennui mécanique, rien ne peut le priver du sacre. Le dernier duel est donc pour la seconde place que se disputent une Maserati et l'Aston Martin du français Paul Frère. À midi, la victoire se précise pour Jaguar. La voiture possède désormais 3 tours et 8 secondes d'avance sur le second, un autre bolide britannique. Mike Hawthorne passe une nouvelle fois le relais à son coéquipier. À 15h56, après avoir changé de combinaison, Hawthorne reprend le volant. Au terme d'une fin de course tragique et sans panache, il part pour un dernier tour à bord de sa Jaguar.
La 24e heure a sonné et c'est presque au ralenti que toutes ces voitures qui pendant 24 heures ont roulé si vite passent devant le drapeau à damier qu'agite Charles Farou. C'est le vainqueur qui arrive maintenant, la Jaguar numéro 6. Hawthorne s'avance doucement vers le stand sous les applaudissements que lui adresse la foule. Et voici tout ce qui accompagne la victoire. Des bouquets, du champagne, le déclic des caméras, les applaudissements de la foule qui se presse. Félicitons sans réserve les pilotes Mike Hawthorne et Ivor Bubb. Une course gagnée à la vitesse record de 171,31 km/h. Une course dans laquelle, luttant contre les plus redoutables voitures allemandes, italiennes et françaises, la Jaguar a établi un nouveau record du tour en 195,819 km/h. C'est de haute lutte qu'a été arrachée cette nouvelle grande victoire, s'inscrivant à un palmarès qui hisse le nom de Jaguar au rang des plus grands noms de l'histoire de l'automobile.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la tragédie des 24 heures du Mans, édition 1955. Notre invité, Jean-Paul Guittet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, vous travaillez avec les pilotes et les membres des équipes du circuit des 24 heures. Vous êtes avec nous en duplex dans les studios de France Bleu, même au Mans, que nous remercions d'ailleurs pour leur accueil. Déjà une petite, petit point m'intrigue, Jean-Paul Guittet. En quoi consiste votre métier auprès des pilotes ?
Eh bien, je ne travaille pas auprès des pilotes, je travaille auprès des spectateurs.
Ah, des spectateurs, voilà.
Je suis médecin au CMS, c'est-à-dire le Centre Médical Spectateur. Autrefois, j'étais médecin et maintenant, je suis devenu le psychiatre du circuit. Et j'interviens sur, par exemple, au Grand Prix de France Moto. Au Grand Prix de France Moto, un monsieur un peu très alcoolisé et voulait foncer dans la foule avec sa voiture. Donc, je suis intervenu, je l'ai gardé pendant plus de 2 heures avec moi. Voilà le genre de choses que je peux faire.
Bon, sinon, les pilotes n'ont pas besoin de vous.
Non. Les pilotes n'ont pas besoin de moi. Non, ils ont leur... Ils ont leur relaxologue, chaque équipe a ses
praticiens,
ses kinés et autres pour s'occuper d'eux.
Alors, vous aviez 10 ans au moment de la catastrophe, on y reviendra.
À peine.
Vous aviez entre 9 et 10 ans, c'est ça ? Quel âge vous aviez ?
Je suis de juillet, donc c'était en juin, j'avais à peine 10 ans.
Ah, c'est ça. Vous trouviez précisément là où a lieu l'accident. On y reviendra. Racontez-nous d'abord l'ambiance sur le circuit au moment du départ de la course. À 16h, à 10 ans, on a des souvenirs assez précis. Hein. C'était quoi l'ambiance des 24 heures du Mans à l'époque ?
C'était mes premières 24 heures. J'en rêvais, par mon grand-père qui était ingénieur à l'usine à gaz, j'en avais entendu parler beaucoup, et pour la première fois je venais avec mon oncle, mon père, ma mère, et mon petit frère qui avait 5 ans, et la première des surprises, ça a été le monde, un monde absolument extraordinaire, et puis je me disais, moi du haut de ma taille, je vais pas voir grand-chose. Heureusement, mon père a rencontré un ami, qui a proposé que nous venions, puisqu'avec mon petit frère, nous installer sur son échafaudage. Alors à l'époque, il faut dire qu'il n'y avait pas ni le mur il y avait juste un petit mur et un petit talus. Il n'y avait pas ces grands grillages qu'on avait, ni toute cette quantité une partie où circulent les motos, là, qui est donc, maintenant, c'est beaucoup plus protégé, mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, il y avait juste un petit mur et un talus. Et donc, il y avait beaucoup de gens, effectivement, sur des échafaudages, et ce monsieur avait installé une table et un banc sur cette table. Donc, on était là, et on regardait la course avec plaisir, puisque on l'a vu, donc, pendant plus de 2 heures, quoi, et j'étais tout à fait passionné avec ce monsieur, pour regarder la course.
Il y avait un côté grande fête populaire, un peu comme le Tour de France. Bon, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas la même épreuve, mais il y avait ce côté-là, quand même, grande fête populaire.
Oui, mes parents sont même partis se balader ils voulaient pas se charger des gamins, et nous, on était sur le bord à regarder la course, mais ce qui me convenait le mieux. J'ai pas connu la fête populaire à ce moment-là, quoi. Je l'ai connu bien après, quand je suis retourné aux 24 heures.
Est-ce que les 24 heures du Mans, qui étaient mythiques à cette époque, dans les années 60 aussi, est-ce que ça s'est un peu banalisé, parce qu'il y a d'autres courses en France, à travers le monde, et puis il y a les motos, il y a le bol d'or, enfin il y a tout un tas de choses maintenant. Est-ce que ça a perdu un peu de son lustre ?
Les 24 heures étaient quelque chose, bon, c'était quand même très international, puisque même Cunningham venait des USA, mais c'était très, je dirais, familial. D'abord, dans les années 60, dans les 50-60, des écuries telles que Ferrari étaient logées dans des garages qui étaient dans des garages sartois. Donc les gens, les voisins pouvaient aller les admirer. Les pilotes, on pouvait les croiser beaucoup plus facilement. Il y avait une sorte de relation très forte entre les sartois et cette course qui était extraordinaire. Et je pense même que cette relation extrêmement forte a fait que ça a pu reprendre dès 1956.
Alors, la lutte sur le circuit est très féroce, hein, c'est normal, ce sont des compétiteurs. Est-ce que cette lutte exacerbée a été à l'origine d'une trop grande prise de risque de la part des pilotes? Et je voudrais parler de l'anglais Hawthorne, qui était, si j'en crois les témoignages et le récit, connu pour ses manœuvres, disons, périlleuses.
Bah vous savez, en Formule 1, on a un petit Verstappen actuellement qui, effectivement, de temps en temps, est un petit peu excessif. Je pense qu'Hawthorne était certainement de cette trempe-là, mais cette rivalité, elle existe tous les ans, en particulier en 54, quand Trintignant a gagné avec sa Ferrari. Il y avait aussi une course tout à fait haletante et il a gagné de très peu. En 1933, des 33, les Alfa Romeo se sont ont mené une course extrêmement difficile. Il y a toujours eu il y a eu quelques années un peu plus ternes, mais tous les ans, il y avait des gens extrêmement motivés, extrêmement agressifs, mais de temps en temps, certains dépassaient un peu la ligne blanche.
Alors, il y avait Fangio, c'est devenu une expression un peu tombée en déshabitude aujourd'hui, mais conduire comme un Fangio, c'était vraiment la star mondiale, lui, quand il était là, il y avait...
Ah, tout à fait.
Il y avait un frisson, comment ça se passait?
Tout à fait, Fangio, on parle tout le monde connaissait Fangio. C'était extraordinaire, mais il faut dire quand même qu'il a été champion du monde en 51, 54, 55, 56 et 57. Mmh. Donc c'était, tout le monde le connaissait. En plus, c'était un type très aimable, très... Et alors, par rapport à Hawthorne, eh bien, autant il y avait une rivalité assez féroce entre Jaguar et Mercedes, autant Hawthorne et Fangio s'appréciaient. Ils étaient même relativement amis.
Et Levesque, c'était la star française ou pas?
Levesque, non, c'était pas la star française. La star française, c'était plutôt Jean Béra. Et Jean Béra, c'était une année assez noire d'ailleurs, parce que le fils de Jaguar, qui s'appelait John Michael Lyons, le fils du grand patron, du créateur de Jaguar, s'est tué en venant aux 24 heures dans un accident avec un camion. Et Jean Béra, qui devait courir aussi, a été fauché pendant les essais par une DB, Dodge Bonnet, alors qu'il était en train de parler avec des journalistes. Il était blessé, il n'a pas pu prendre part à la course.
Bon, alors,
Levesque, lui, il était très connu, surtout des spécialistes, pour sa course extraordinaire en 1952. En 1952...
Ah oui, il rate à 5 minutes de la fin, c'est ça? Il échoue au port.
Il était au volant de sa Talbot et il menait la course très largement. Mmh. Il a tenu le volant pendant 23 heures. Il n'avait pas donné le volant à son coéquipier. Ce qui était un peu l'habitude d'ailleurs, parce qu'il faut savoir qu'en 49, par exemple, Luigi Chinetti a fait pareil avec Lord Selsdon sur une Ferrari. Il a laissé deux tours à Lord Selsdon quand il a gagné en 49 sur Ferrari. En 50, Louis Rosier a fait la même chose. Il a laissé deux tours à son fils sur la Talbot gagnante, la numéro 5. Donc c'était un peu l'habitude. Donc en 52, il avait fait la même chose et il a fait exprimer le fait qu'il était, parce qu'il a entendu un bruit et qu'il ne voulait pas laisser à son coéquipier une voiture qui risquait de tomber en panne. Voilà l'explication qu'il avait donnée. N'empêche qu'il y a une superbe photo de Levesque qui descend de sa voiture abasourdi parce qu'il devait gagner. Il était en tête assez largement. Il était dans un état d'épuisement absolument total. Mais il faut savoir, petite anecdote aussi, qu'il n'y avait pas de femmes qui couraient cette année-là et qu'il y avait quand même une Coupe des Dames. Et cette Coupe des Dames a été offerte à Madame Levesque qui a tenu le chronomètre pendant 23 heures également.
Bien, Jean-Paul Guittet, on va reprendre notre souffle pendant 3 minutes. Ensuite, on parlera de l'accident et on va écouter George Harrison. Je ne sais pas si vous le savez, mais George Harrison des Beatles était un fan de course automobile. Il a fait un disque qui s'appelle Fasters, d'ailleurs.
Part of it.
George Harrison, Fasters, Jean-Paul Guittet. On va maintenant passer à l'accident, à la narration de cet accident, ce que nous sommes efforcés de faire pendant le récit. Mais enfin, à la radio, non, par définition, on n'a pas d'image. L'idée, c'est de recréer les images avec les mots, l'écriture, le ton, enfin, tout ce qui nous passe par la main. Mais quand même, parfois, ça, c'est limite. Les images, quand on les voit sur Internet, par exemple, sont extrêmement impressionnantes. Vous étiez dans la tribune à ce moment-là. Dans vos souvenirs, que se passe-t-il? Que faites-vous? Que ressentez-vous?
J'avais le regard à gauche et j'ai entendu une déflagration, donc j'ai tourné mon regard à droite parce que j'étais mais à quelques dizaines de mètres à gauche de l'impact. Et j'ai entendu mon voisin qui était, j'avais la chance qu'il soit gros et à ma droite. Et c'est donc lui qui m'a protégé et servi de bouclier, qui a dit « Falex ». Et il voulait dire « Falex, ça arrive sans doute ». Et puis on s'est effondré. Les gens ont reculé, tout s'est effondré. Ma première pensée a été de chercher mon petit frère. J'ai récupéré mon petit frère. Et puis je suis passé au milieu de cadavres. J'ai vu, j'ai des images qui me marqueront jusqu'à la fin de ma vie, avec un père qui avait un gamin décapité dans ses bras, un autre qui avait le crâne ouvert qui s'est effondré devant moi, etc., etc. Et puis au bout de, enfin, je suis passé par-dessus des morts, quoi. Et puis. Au bout de 10 minutes, mon père m'a retrouvé. Sa première réaction, d'ailleurs, a été de me mettre une claque, comme si j'étais responsable de la chose. Et puis, on est parti tout de suite, nous. On est parti tout de suite. Et effectivement, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, ceux qui étaient du côté du pneu Dunlop ne savaient pas du tout qu'il se passait quelque chose d'aussi dramatique. Mmh. Et puis, on a pris la voiture et on se faisait doubler par... Des ambulances qui étaient des Renault surélevés militaires. Une image qui m'a marqué, c'est que je sais pas comment ils avaient entassé les morts ou les blessés derrière, mais ça pissait le sang derrière les voitures qui roulaient et qui allaient vers l'hôpital.
Alors je parle à un psychiatre, je lui pose la question quand même. Vous avez été suivi après, parce que quand on vit ça 10 ans, des images comme ça, aujourd'hui il y a des cellules de soutien. Comment ça se passait à l'époque?
Bah, ma cellule de soutien, ça n'a pas été grand-chose.
C'était vous-même?
J'y suis même Ça n'a été rien du tout, même. Ouais. Je suis retourné en 59 au 24 heures du Mans, et j'y vais tous les ans depuis 1959, donc 4 ans après. Et le problème, c'est que je suis psy et que j'ai fait une analyse. Et c'est surtout lors de l'analyse que j'ai retrouvé des images absolument stupéfiantes et très marquantes qui m'ont fait trembler un peu sur le divan.
J'imagine. Alors vous avez dit un mot, mais comment se sont organisés les secours? Si c'était la confusion, bah j'imagine que dans ces cas-là, c'est toujours un peu la confusion. Comment ça fonctionnait tout ça?
C'est un peu difficile de vous répondre parce que, enfin, donc on a pris la voiture assez rapidement et on a été doublé très rapidement par de nombreuses ambulances qui passaient très très vite avec la sirène. Et donc, je crois qu'ils ont été, enfin, il y en a qui ont été sur Tours, d'autres qui ont été sur Le Mans. Je n'ai pas, comme j'étais pas dans le secret des dieux médicaux à l'époque, je ne peux pas en dire plus. Ensuite, je n'ai entendu les choses que par la radio et le lendemain, comme vous le disiez tout à l'heure.
Alors justement, évidemment, la presse en a parlé, hein, ça a été un traumatisme. On va écouter ensemble une archive, il s'agit d'une revue de presse des journaux de l'époque, faite bien plus tard, hein, évidemment, par Stéphanie Duncan sur France Inter, dans le cadre de l'émission « Les jours du siècle ».
Il faudra que bien du temps passe pour que nous oublions cet atroce week-end de juin, constate Robert Cusin dans l'Aurore, qui titre « 85 morts, 105 blessés, le drame le plus sanglant de l'histoire des courses automobiles ». Beaucoup de journalistes sont scandalisés qu'on n'ait pas arrêté la course après l'accident. « Il s'agissait d'un respect élémentaire pour le deuil des familles », s'exclame l'Humanité. Si les mesures n'ont pas été prises, c'est parce qu'il y avait trop d'intérêt en jeu. Georges Ravon, dans le Figaro, déplore lui aussi que le souci de ne pas compromettre la recette des guichets ait prévalu. La nouvelle suscite un tollé d'indignation à l'étranger. « Continuer la course », écrit le Daily Telegraph, c'était pousser l'esprit sportif un peu loin. Et pour le Kölnische Rundschau en Allemagne, il faut mettre les organisateurs au pilori. Cette indignation allemande suscite une réaction assez curieuse dans le monde. Dans son billet d'humeur, on peut même dire de mauvaise humeur, Yves Floren réclame un peu de discrétion de la part des Allemands qui, en 1933, dit-il, n'ont pas fait grand-chose pour arrêter une autre course autrement plus sanglante que celle du Mans. Alors je rappelle que nous sommes que 10 ans après la fin de la guerre. Dans Paris Presse, Paul Gérin, lui, pense que les organisateurs ont eu raison de laisser la course se terminer normalement, Toute autre décision, dit-il, eût gêné les secours et eût condamné à jamais la plus ancienne et la plus réputée des grandes épreuves automobiles. D'autres s'interrogent sur la vanité du progrès technique et de la vitesse. Le progrès industriel n'irait pas moins vite, écrit l'Aurore, s'il essayait ses mécaniques à l'écart des foules. Et le prestige de la France et de l'industrie automobile française ne vaut pas 80 morts. Jean Fabiani, dans Combat, constate lui aussi que l'homme, apprenti sorcier, a créé des machines qui échappent à son contrôle. Mais ce n'est pas une fatalité et Jean Fabiani réclame une législation nouvelle. Après le terrible accident du Mans, dit-il, il n'est plus admissible que l'autorité se désintéresse de la question.
Voilà, Jean-Paul Guittet, tout ça est intéressant. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir avec vous. Effectivement, le fait qu'on ait continué la course paraît, comme ça à première vue, tout à fait indécent. Mais cette décision a peut-être permis, effectivement, de ne pas créer d'embouteillage. Si tout le monde était parti en même temps, ça aurait considérablement gêné les secours. Quelle est votre position entre ces deux approches antagonistes?
C'est effectivement Charles Faroux qui a décidé cela. Et à préciser d'ailleurs que c'est Charles Faroux qui avait insisté pour que ce soit l'évêque qui conduise la Mercedes, alors que normalement cette place est Paul Frère qui courait sur Maserati. Paul Frère qui a gagné d'ailleurs les 24 heures du Mans en 1960, qui aurait dû courir à la place de l'évêque. Petite précision aussi, ça c'est quelque chose que j'ai tout à fait entendu de quelqu'un de confiance, c'est Madame Lévesque qui a commencé par consoler Madame Fangio, parce qu'on pensait que c'était Fangio qui était accidenté. Et on s'est aperçu très vite, malheureusement, au bout d'un tour, que c'était Lévesque. Donc effectivement, c'est Madame Lévesque ensuite qui était vraiment effondrée. Je pense effectivement, quand on voit maintenant, même si avec beaucoup de, quand on voit un petit peu la sortie des 24 heures du Mans, c'est quelque chose d'assez, pour le moins difficile. Alors, est-ce que ça aurait été la panique, que ce soit là ou après l'arrivée, je ne sais pas. Je pense que effectivement. C'était peut-être, je pense qu'il aurait peut-être mieux fallu arrêter la course. En tous les cas, moi, ce qui m'a paru indécent, c'était le grand sourire de Mike Hawthorne à l'arrivée.
Alors, je suppose que vous suivrez la course des 24 heures cette année, j'en suis même quasiment sûr. Hein. À quoi peut-on s'attendre? Rapidement, il nous reste quelques secondes. Hein. Depuis le retrait des Audi, c'est qui les favoris maintenant? C'est Porsche et Toyota?
Porsche a 18 victoires, Toyota n'en a pas du tout. Je pense que Toyota a extrêmement bien préparé après sa déconvenue de l'année dernière. Je voulais quand même juste préciser une petite chose. Mercedes est revenu aux 24 heures du Mans et en 99, il y a eu des envolées spectaculaires de Mark Webber, en particulier de Drumbuck, qui se sont envolées avec des voitures qui étaient qui étaient très aérodynamiques, mais presque trop comme des avions, elles se sont envolées. Et là encore, Mercedes a arrêté la course alors que la numéro 6 était, elle, en tête. Oui. Et c'est BMW qui a gagné et Mercedes n'est jamais revenu sur le circuit. En précisant aussi que Bourges Monory, ministre de l'Intérieur, avait interdit toute compétition en France après l'accident de 55, mais ça n'a pas duré longtemps, contrairement à la Suisse où il n'y a pas de compétition automobile.
Très bien, pardon de vous bousculer Jean-Paul Guittet, mais c'est l'heure. Merci en tout cas d'avoir partagé vos souvenirs avec nous. Merci, au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, drame aux 24 heures du Mans, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la crise de la vache folle.